Je vois beaucoup de personnes s'apposer l'étiquette de dépendante affective. Mais la dépendance affective, c'est pas une maladie quand même. C'est un état qui peut avoir différentes intensités et se manifester de différentes façons selon les individus. C'est en général une personne qui ne s'estime pas à sa juste valeur et dont la vision d'elle-même va dépendre de facteurs extérieurs, dont la vision des autres. Plusieurs personnes peuvent se reconnaître dans les comportements de dépendance affective. Le problème va surtout résider dans leur intensité et les effets négatifs sur leur vie et leurs états émotionnels. Regardons ça un petit peu ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience, c'est pour toi si tu as envie de changer ta vie et d'évoluer de façon réelle et concrète, que tu prends responsabilité pour tes états émotionnels et que tu es engagé pour avoir des vrais résultats. Lorsqu'on parle de dépendance affective chez un individu, on parle habituellement d'un besoin excessif de se sentir soutenu, reconnu, encouragé, aimé par un conjoint, des amis, bref, l'entourage. On parle aussi de personnes qui ont énormément peur de l'abandon et de la séparation. Et là, ici, j'insiste sur le mot « excessif ». Parce que j'ai vu trop de gens s'apposer l'étiquette de dépendant ou dépendante affective, alors que c'était pas si grave que ça. Tu sais, je veux dire, des besoins d'amour, besoins d'attention, c'est tout le monde qui a ça. Maintenant, comme je dis, le problème réside dans l'intensité. À quel point ça nuit à ta vie émotionnelle, à quel point ça t'amène à avoir des comportements et des mécanismes nocifs, dans le fond, qui te font souffrir. Mon nom, c'est Pascal Brousseau. Si tu ne me connais pas, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com. Je te souhaite une bonne année 2024. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ça, mais cet épisode-là sort justement le 1er janvier, donc j'en profite vraiment pour te souhaiter une magnifique année 2024. Je t'invite à partager autour de toi cet épisode-là si tu trouves de la valeur, si tu penses que ça fait du sens pour toi ou si tu penses qu'il y a quelqu'un autour de toi, une amie qui pourrait avoir besoin d'entendre ce que je vais dire. Je vais mettre aussi le lien de mon site internet en commentaire, en description de l'épisode, donc plus facile pour toi si tu veux trouver, mais c'est pascalbrousseau.com. Donc, comment tu veux commencer cette année-là exactement? Comment tu penses l'enligner cette année-là, 2024? Moi, mes objectifs sont déjà ciblés, sont déjà écrits, mis dans ma penderie, et j'ai déjà certaines choses de mis en place pour atteindre mes objectifs, atteindre l'intention que j'ai mis pour 2024. Revenons à nos moutons, la dépendance affective. On parle souvent des causes, il y a différentes causes à ça, mais en gros, c'est lorsqu'il y a eu un manque de reconnaissance, un manque d'attention, d'amour insuffisant dans la petite enfance. Ça peut être créé par un trauma, ça peut être créé par des blessures d'abandon, d'humiliation, d'intimidation, de rejet, etc. Et tout ça va conduire à des carences affectives à l'âge adulte. Carences affectives qui vont se manifester par toutes sortes de comportements nocifs et d'émotions exagérées, exacerbées pour la personne. Je tiens à dire, quand je parle du vécu de la petite enfance, c'est pas nécessairement ce qu'on a vécu qui est important, et je le dis souvent, c'est ce que l'on a perçu. Il y a des gens qui ont eu des enfances épouvantables et qui ne sont pas tant carencés émotionnellement, et il y a des gens qui ont eu des enfances relativement, on va dire, agréables, adéquates, mais qui pourtant ont perçu des carences affectives. Souvent, on le voit lorsqu'il y a des fratries, en fait des frères, des sœurs, J'ai souvent vu ça, c'est que l'enfant perçoit que là où les sœurs ou là où les frères ont reçu plus d'amour qu'elles-mêmes. Et donc, ça peut créer des perceptions qui vont créer des carences affectives. La personne qui vit la dépendance affective est caractérisée par, je dirais, une sollicitation excessive de marques d'attention, d'affection qui peuvent nuire aux relations. Nuire aux relations de couple, nuire même aux relations sociales, amicales, parce que la personne va être perçue un peu comme étant accaparante. Le dépendant affectif va toujours être déçu de l'amour qu'il reçoit, ça va jamais être assez, que ce soit de sa relation amoureuse, que ce soit amicale, parce que ces relations-là, au final, ne comblent jamais réellement l'angoisse et le vide ressenti par cette personne-là intérieurement. La relation de dépendance affective se caractérise aussi par l'espoir que la relation va combler ses besoins, tous ses besoins. Un peu comme un enfant qui s'attend à ce que ses parents comblent tous ses besoins, ben la personne en dépendance affective va s'attendre à ce que sa relation comble tous ses besoins. Elle va être fortement activée émotionnellement si ce n'est pas le cas, ce qui va donner lieu souvent à ce que j'appelle du drama émotionnel. Hein, il va y avoir des crises émotionnelles, comme si la personne retournait en quelque sorte dans un état émotionnel d'enfant, ce qui va être extrêmement désagréable habituellement pour l'entourage ou le conjoint. La personne va ressentir des besoins d'amour et de valorisation constante, des insatisfactions permanentes, comme je disais, par rapport à sa relation, des attentes irréalistes envers son entourage et son couple, et va avoir certaines difficultés à recevoir la critique négative, à prendre la critique. Et aussi ben, à communiquer adéquatement ses sentiments, ce qui va se manifester souvent par différents mécanismes de défense, que ce soit la fuite ou l'évitement, c'est-à-dire que la personne ne s'exprime pas du tout, ou au contraire, va avoir tendance à chercher à culpabiliser l'autre, agresser l'autre ou manipuler l'autre pour avoir l'attention désirée, l'attention nécessaire. Souvent, j'ai remarqué que ce sont des gens qui sont pris dans la victimisation ou ce que j'appelle affectueusement la victimite aiguë. Donc, ils vont avoir de la difficulté à prendre responsabilité de leur vie, qui vont avoir tendance à blâmer l'extérieur pour leur situation. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'espère que non, parce que je te dis tout de suite, et surtout si tu as déjà écouté d'autres épisodes de podcast, tu sais ce que j'en pense. Il est absolument impossible d'évoluer, de changer, d'apaiser nos blessures si le moindrement il reste dans notre esprit l'idée que c'est pas notre faute, que c'est de la faute de l'extérieur. Bien sûr, on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé dans l'enfance, mais en tant qu'adulte, on est responsable de notre état émotionnel et on est responsable de faire les changements qui s'imposent pour vivre une vie agréable. Tant et aussi longtemps qu'on se victimise, qu'on blâme l'extérieur et qu'on attend un sauveur, ben on est fait. Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais d'évolution possible. Ce sont aussi des personnes, j'ai remarqué, qui sont très sujettes à l'oppression et aux relations toxiques, de par la culpabilité qu'elles vont ressentir, la peur de perdre l'autre, la peur du rejet. C'est des personnes qui vont accepter tout et n'importe quoi, qui vont accepter de se faire, si on veut, maltraiter, mal parler et tout ça. Et étant donné que, comme j'en ai parlé dans les remises en acte, une blessure va faire qu'on attire encore les situations qui nous font revivre sans arrêt ces blessures-là, ce qu'on appelle des remises en acte. Ben, cette personne-là, si elle a eu des parents toxiques ou si elle a eu des parents qui ne la comblaient pas au niveau émotionnel, ben, c'est tout à fait normal que cette personne-là va attirer sans arrêt des personnes dans sa vie qui vont lui faire revivre cette blessure-là et le manque d'attention, d'affection et d'amour. C'est aussi des gens qui vont avoir tendance à la jalousie à cause de la peur de perdre, donc ils vont vivre beaucoup dans une grande insécurité au niveau relationnel. Et des fois, c'est pas juste dans le couple, ça se manifeste même au niveau des amis. L'ami appelle pas ou l'ami répond pas tout de suite. Puis là, la personne tout de suite va dire, ben c'est ça, qu'est-ce qu'elle pense? Elle est fâchée après moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il y a déjà une panique qui va s'installer. C'est des gens qui ont beaucoup aussi le sentiment de ne pas mériter, de ne pas mériter d'affection, de ne pas mériter d'amour, ce qui va provoquer un manque de confiance en soi, un sentiment de culpabilité et de peur d'être inadéquate ou insuffisante quasiment en permanence. Et comme il y a de la culpabilité et que j'en ai parlé dans le dernier épisode, l'épisode 69, ben quand il y a de la culpabilité, il y a aussi de l'auto-sabotage ou de l'auto-punition inconsciente. Donc la personne inconsciemment va avoir des comportements qui vont nuire à sa vie, que ce soit à sa vie de couple, que ce soit à sa vie professionnelle, études, etc. La personne dépendante affective peut aussi avoir certaines fois des comportements sexuels inadéquats pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle va chercher pour avoir de l'amour à avoir des relations sexuelles. Elle va être naturellement excitée, il va quand même y avoir une attirance, mais des fois, il n'y en aura pas du tout. Excusez ma vulgarité, mais la personne va littéralement donner son cul pour avoir de l'amour et avec toutes les problématiques qui peuvent s'en suivre. Ce que j'ai remarqué aussi, qu'on ne trouve pas habituellement dans les descriptions, les livres ou les recherches qu'on peut faire sur Internet, personnellement, j'ai remarqué que les gens qui sont beaucoup dans la dépendance affective, donc dans l'insécurité émotionnelle et affective, ont aussi énormément d'insécurité financière. Et ça, je remarque que c'est triste parce que ça limite leur propre évolution. C'est-à-dire que par peur de dépenser de l'argent, ne comprenant pas que c'est un investissement que de consulter ou de prendre des ateliers ou de prendre des formations, ces personnes-là, par insécurité financière, par peur, vont éviter ou vont dépenser au minimum. Et donc, c'est un problème, elles vont pas avancer par rapport à ça. Et je te dirais, si tu réponds positivement à plusieurs de ces affirmations-là, les chances sont élevées que tu sois une personne dans un état de dépendance affective. Et quand on regarde ça, j'en ai parlé déjà énormément dans mes podcasts. Quand je montais mon podcast aujourd'hui, puis je faisais mes recherches, je me disais dans le fond, mais c'est tous des sujets que j'ai traité sous différents angles dans d'autres épisodes. Comme par exemple l'épisode 69, la culpabilité, c'est plus que ça. Ben, si tu es dépendante affective et tu écoutes ça, tu vas te reconnaître. Tu vas voir à quel point la culpabilité et la honte ont un impact négatif dans ta vie. Et c'est un critère de gens dépendants. Dans l'épisode 63, 64 et 66, je te parle de la femme souveraine. Donc, par quelles étapes, de quelle façon, qu'est-ce qu'on doit modifier pour devenir une femme souveraine? Bien sûr, comme je le dis, j'utilise le mot femme parce que la majorité de mes clients sont des femmes, à près de 95%, et aussi parce que j'ai très à cœur, la situation de la femme et que je me rends compte que souvent la femme se sent beaucoup plus coupable que l'homme. Mais épisodes 63, 64 et 66, je parle de ça, comment une femme devient souveraine en différentes étapes. Dans l'épisode 62, je te parle de l'attachement émotionnel et comment cet attachement-là se fait, même biologiquement, par des hormones comme l'ocytocine ou les opiacés endogènes qui créent une grande accoutumance, dépendance qui est très addictif. Donc, on pourrait se demander aussi, est-ce que la dépendance affective ne serait pas une espèce de dérèglement comment dire, d'addiction à ces hormones-là. La personne, si elle ne ressent pas, ou peut-être qu'elle ne produit pas elle-même assez de ces hormones-là et qu'elle est en carence, donc elle sent un vide. C'est une question que je lance comme ça. Épisode 48, je parle de l'ABC d'une relation, comment manifester la personne qu'on veut, comment se respecter et mettre les limites d'une relation saine pour nous. Et l'épisode 47, je te parle d'accepter de souffrir pour arrêter de souffrir. Et ça, c'est super important. Parce que oui, il ne faut pas attendre la magie. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit sans effort. L'accompagnement que j'offre facilite la transition, puis ça donne des outils. Mais ça va toujours demander du courage et une certaine volonté ferme de changer venant de la personne. Et je vous le dis tout de suite, gare aux promesses de facilité. Il y a énormément, je le vois, des coachings ou des thérapies quelconques. Je vois ça sur Facebook, des grosses promesses, là, qu'en une fin de semaine, tout va être réglé, puis tu n'auras pas ça. Sauvez-vous si vous avez des promesses de résultats, parce que je peux vous donner des promesses d'engagement de ma part, mais les résultats, c'est vous qui les avez. Et je le vois parce que dans ma clientèle, j'ai plusieurs personnes qui en ont fait de ces choses-là, puis ça fonctionne pas. Puis ils reviennent dans mon bureau, puis ils disent, hey, j'ai consulté des années, puis j'ai vu telle personne, puis j'ai fait tel atelier, puis j'ai lu tel livre. Puis au final, ça change pas émotionnellement. J'ai toujours les mêmes résultats. Fait que toi, est-ce que tu es une personne qui a fait plein de choses comme ça, de développement personnel dans ta vie? Mais qu'au final, il n'y a pas eu de succès, il n'y a pas eu de changement réel. Si c'est le cas, je t'invite à écouter la suite parce que je vais te dire un peu qu'est-ce que ça prend dans ma vision pour changer. Premièrement, il faut arriver à comprendre comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas nos mécanismes, ben on ne peut pas arriver à rien. T'sais? Je veux dire, c'est comme un mécanicien, s'il ne comprend pas ton moteur, il ne peut pas le réparer. Et une des choses qu'il faut comprendre, c'est comment apaiser. Et j'utilise bien le mot apaiser parce que le mot guérison, pour moi, au niveau émotionnel, n'existe pas. Tu ne peux pas faire disparaître à jamais une blessure que tu as eue émotionnelle. Elle va toujours être là, mais elle peut être apaisée, c'est-à-dire que tu n'entreras plus en réaction, en réactivité en lien avec cette blessure-là. Donc, apprendre à apaiser au quotidien ce qui émerge, arriver à faire face à ces émotions-là, à cette anxiété-là, à cette peur-là, et non pas de la fuir. Mais aussi, il faut arriver à apaiser l'émotion qui est reliée à ces souvenirs-là qui l'ont créée lorsque ça émerge. Et ça, là, ça ne se fait pas avec la mémoire explicite. La mémoire explicite, c'est on est assis ensemble, on jase et tu me racontes ton passé. Ça, on voit souvent ça en thérapie. C'est pour ça que moi, je ne fouille pas le passé des gens parce que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la mémoire explicite, on n'a pas accès à des modifications à partir de là. Par contre, la mémoire implicite, elle, qui émerge spontanément lors de méditation, lors d'observation consciente, c'est la mémoire cellulaire, c'est la mémoire émotionnelle. Elle, on peut la modifier. Elle, on peut l'apaiser. Et c'est important de faire la différence entre ces deux types de mémoire-là. Et l'observation consciente, ou ce que j'ai appelé dans ma formation, tisser la toile de l'inconscient, permet ça, permet d'arriver à percevoir les croyances, à percevoir les blessures, à percevoir les comportements, à percevoir les mécanismes de défense, mais d'une façon concrète et réelle, reliée à l'émotionnel, et non pas par une déduction mentale qui peut nous mener habituellement dans l'erreur. Et je vous donne un exemple comment c'est puissant. Et je l'ai sûrement déjà donné dans d'autres épisodes. J'ai un client un jour qui vient me voir justement pour une grande peur de l'abandon qui l'amène à être dépendant affectif. La preuve que c'est pas juste les femmes qui souffrent de ça, hein? Et je lui ai fait ressentir tout simplement dans son corps cette peur de l'abandon-là. Et après un certain moment, soudainement, il me dit, là, je le sens, j'ai vraiment peur de l'abandon, et là, j'étouffe, j'étouffe, et je dis, comment ça se passe dans ton corps? Il me dit, c'est comme si j'avais une corde autour du cou, ça m'étouffe, ça m'étouffe. Et là, je lui demande, bah, OK, t'as quel âge? T'es où dans cet état-là? Et il me dit, je suis dans le ventre de ma mère. Puis là, lui-même trouvait ça bizarre. Il dit, je me sens vraiment comme dans le ventre de ma mère. Bon. Moi, je m'en fous un peu, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On fait le travail d'apaisement, d'observation, de respiration et tout ça. Et lorsque ce client-là revient à lui, il termine la séance, il reste avec cette idée-là qui est bizarre et il décide d'aller directement chez sa mère pour lui raconter cette expérience-là. Et sa mère lui dit, c'est vraiment spécial parce qu'elle dit, la journée de l'accouchement où j'allais t'avoir, je me suis chicané avec ton père est parti. Et là, j'ai eu extrêmement peur d'être abandonnée. J'ai eu peur d'être prise pour élever cet enfant-là tout seul, puis d'avoir à accoucher tout seul. Puis elle dit, ce qui est encore plus spécial, c'est que les médecins ont dû te manipuler parce que tu avais le cordon autour du cou. Alors, voyez-vous comment la mémoire cellulaire, la mémoire émotionnelle était encore présente? Cette personne-là n'aurait jamais pu trouver ça avec sa mémoire explicite. C'est quelque chose qui a émergé spontanément de lui, de son inconscient, incluant l'ancrage physique qu'il avait vécu. C'est spécial. C'est vraiment spécial à vivre. C'est là qu'on voit que tisser la toile de l'inconscient, quand je l'ai créé, c'est vraiment pour donner les outils aux personnes à arriver à découvrir tout ce que j'ai nommé. Par contre, avoir des prises de conscience, ça aussi, c'est insuffisant. Et le problème, c'est que souvent, les gens arrêtent là. Ce que j'appelle se sortir la tête de l'eau et non pas sortir de l'eau. C'est-à-dire qu'ils vont commencer un travail avec un thérapeute ou par eux-mêmes et dès qu'ils vont prendre conscience de certaines choses ou qu'ils vont obtenir certains résultats, ils vont dire « Ah, wow, c'est merveilleux, j'ai trouvé » et ils vont arrêter. Le problème, c'est qu'il n'y a rien intégré. Et ce qui va arriver, c'est que les remises en acte vont toujours revenir sans arrêt quand même parce que ta vibration, ce que tu émanes dans l'univers, ton schéma émotionnel, tout ce que tu vas recréer par des micro-comportements inconscients va toujours te ramener à la même chose. Et ça me fait penser à certaines clientes, dont une en particulier, qui s'était rendue compte à quel point sa dépendance affective lui amenait à vivre des relations toxiques. Et elle a appris à reconnaître ces hommes-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que elle m'écrivait des fois, puis elle disait, hey, je n'ai rencontré un autre, mais je m'en suis rendu compte tout de suite, là, fait que hey, je l'ai mis hors de ma vie et tout et tout. Et ça, c'est super. La personne ne retourne plus dans des relations toxiques. Le problème, c'est qu'elle n'a plus de relations pantoute, parce que comme le changement n'a pas été fait au niveau inconscient, tout ce qu'elle vibre est pareil. Donc, elle continue d'attirer, lorsqu'elle attire des gens toxiques. Elle s'en rend conscience, elle en prend conscience, elle le repousse, mais qu'est-ce qui arrive? Elle reste célibataire. Elle n'arrive pas à créer d'autres conditions qui vont faire qu'elle va attirer une personne adéquate pour elle, parce qu'elle n'a pas évolué tout simplement. Bref, le travail n'est pas fini. Et je te dis, ça, c'est typique de ce que je disais tantôt, les gens qui vivent de l'insécurité financière. Ils vont commencer le travail, ils ont du résultat, et pour sauver 100 $, 200 $, 300 $, ils vont pas continuer la thérapie ou ils vont pas continuer le travail sur eux autres. Puis au final, ben, ils ont arrêté à mauvaise place parce que les résultats sont pas là. Parce que pour avoir des résultats, il faut aller plus loin que ça. Comme je disais, il faut l'apaiser. C'est cette blessure-là qui est là. Et ça demande un certain temps. Une simple prise de conscience, ce n'est pas suffisant. Mais en plus d'apaiser ça, ce souvenir-là, ou d'apaiser les émotions qui montent dans le présent, il faut être en mesure de modifier les croyances qu'on a trouvées aussi. Exemple, une croyance sur c'est quoi un homme? C'est quoi une relation? C'est quoi une femme? Qu'est-ce que je crois possible pour moi, qu'est-ce que je crois pas possible? Parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, notre vie est la somme de nos croyances. Et une croyance n'est jamais vraiment vraie ou fausse, elle est surtout limitante ou aidante. Donc, ça va être important si j'ai un objectif, si j'ai une intention, comme par exemple d'être en couple, ben de m'assurer que toutes mes croyances en lien avec ça sont alignées avec mon intention. Parce que si dans ma tête, les hommes, c'est des écœurants, ben tout ce que je vais rencontrer, c'est des écœurants. Si dans ma tête, une relation à deux, ça nécessite beaucoup de sacrifices dans mes croyances, ben tu vas toujours avoir des relations où tu dois te sacrifier et t'oublier totalement. Parce que ce qu'on croit se manifeste. Donc, il faut les modifier, ces croyances-là. Les comportements aussi qu'on a, les comportements toxiques, ben, il faut arriver à les modifier puis arriver à résister, hein. Tu sais, si je veux arrêter de manger du sucre et à chaque fois que j'ai une petite pulsion d'un biscuit, je saute dans l'armoire puis je mange le biscuit, c'est pas résister au comportement toxique, ça. Fait que c'est la même chose. Si j'ai des comportements toxiques de jalousie, de peur, d'addiction, de comportements sexuels inadéquats pour moi et que j'arrive pas à résister à ça, si mes comportements ne changent pas, je ne changerai pas non plus. C'est pareil pour les mécanismes de défense, j'en parle souvent. Les mécanismes de défense vont créer des remises en acte. Parce qu'à chaque fois qu'un mécanisme automatique va se mettre en place pour m'empêcher de vivre la douleur, par exemple, de l'abandon, ben, les comportements qui vont suivre vont paradoxalement créer des situations d'abandon. Et en plus, va créer des problématiques de communication. Parce que si je suis réactivé et que je suis dans un mécanisme de défense, automatiquement, ma communication va être biaisée. Et elle va probablement réveiller les mécanismes de défense chez l'autre qui vont s'activer et qui vont brouiller sa propre communication aussi. Donc au final, on n'arrive à rien, on ne se comprend pas et les deux, on souffre. Mais par la suite, un coup qu'on élimine tout ça, là, puis qu'on efface tout ça, il faut mettre autre chose à la place. Vous avez déjà entendu la phrase qui dit « la nature a horreur du vide ». Ben, si on enlève quelque chose, si on enlève une fausse croyance ou une croyance limitante dans notre tête, mais qu'est-ce qu'on veut mettre à la place? Donc, il faut savoir comment je fais pour reprogrammer des croyances nouvelles, comment je fais pour reprogrammer des comportements nouveaux automatiques. Il faut apprendre à mettre en place ce qu'on veut mettre à la place. Il faut apprendre à avoir une intention, à porter notre attention et à poser des actions en lien avec tout ça. Et tout ça se fait progressivement avec patience. Je vois trop de gens pas avoir de patience. Après une rencontre ou deux, me dire « Ah si, je ressens encore ci, puis je ressens encore ça, puis hey, attends une minute. » Ça peut prendre un an, 2 ans pour évoluer, parce qu'on a besoin de répétition. Donc, ça va dépendre à quel point tu t'investis, toi, dans le processus. Mais je le dis, ça va prendre de la patience, ça va prendre de l'investissement de soi et ça va prendre les bons outils de changement réel et concret. Parce que, comme je le dis, je l'ai vu pour avoir erré pendant des années, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Puis tu sais, je ne veux pas être méchant, je vais lancer une petite poignée de gravel, mais te coucher sur le dos avec un bol tibétain sur ton chakra du cœur qui vibre, ça ne va pas enlever ta dépendance affective, je te le dis tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai des très bons résultats en individuel avec des gens. J'ai eu des témoignages sur mon site et tout, mais pour permettre à plus de femmes d'acquérir ces compétences-là, j'ai décidé de créer un atelier qui s'appelle Deviens une femme souveraine, qui est un atelier coaching qui fait que pour tout ce que je donne, les gens, ça leur coûte vraiment moins cher pour obtenir tous les outils et l'accompagnement que je donnerais sinon en privé. D'ailleurs, je vais mettre le lien de cet atelier coaching-là en description. Et by the way, je fais un live sur Facebook, sur ma page personnelle, Pascal Brousseau, le 4 janvier, qui est un jeudi, si je ne me trompe pas, à midi, où je vais expliquer les tenants et aboutissants de cet atelier coaching-là de groupe, qui consiste en fait à 4 dimanches matin de 9h à midi ou 15h pour les Européens, plus un coaching privé. Parce que je veux m'assurer dans cet atelier-là que je ne te donne pas juste de l'information, mais que tu passes à l'action, que tu fais des actions concrètes pour obtenir des résultats. Je reste aussi disponible durant ce mois-là pour tes questions en privé sur Messenger pour un suivi. J'offre aussi un groupe privé Facebook pour que les gens puissent échanger ensemble, pour que les gens puissent me poser des questions. Les rencontres vont être enregistrées. Et encore plus que ça, si tu t'inscris avant le 8 janvier, je te donne gratuitement à vie ma formation en ligne Tisser la toile de l'inconscient dont je t'ai parlé tantôt. Donc juste ça, là, juste mon coaching privé à 115, plus ma formation que je vends habituellement 287, tu en as pour 402 piastres. Donc à 402 $, le reste de l'atelier coaching est pratiquement gratuit. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller voir dans la description ou même à me communiquer personnellement. Ça va me faire plaisir de te donner plus d'informations. Maintenant, attention, je prends seulement 10 personnes parce que je veux vraiment que dans cet atelier-là, il y ait un suivi personnel pour chaque personne. Parce que mon objectif dans tout ça, c'est que tu aies vraiment des changements concrets. Et ça peut avoir l'air très altruiste, mais non, c'est un peu égoïste parce que si toi tu changes, si toi tu as des résultats magistraux, ben, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas parler de moi. Puis moi, ben, ça va me donner une notoriété. Parce que cet atelier-là, je veux la redonner. Donc, mon objectif, c'est vraiment de tout donner pour ce que ça fonctionne, dans un but très égoïste, c'est de me faire un nom. Non, je dis ça à la blague, mais oui, derrière ça, j'aimerais me faire un nom par vraiment du réel et du concret. De plus, pour faciliter l'accès, ben, c'est possible de payer en deux versements, un par mois. Donc, je ne sais pas si tu trouves que c'est une bonne offre. Si tu veux en savoir plus, ben, je fais le live, hein, le 4. Ou sinon, ben, tu m'écris en privé à partir de mon site internet pascalbosso.com. Puis ça va me faire plaisir de prendre une quinzaine de minutes avec toi pour voir si c'est adéquat pour toi. Maintenant, je peux déjà te dire que ce n'est pas pour toi si tu es une personne qui est dans la victimite. Si tu es une personne qui attend un sauveur, que quelqu'un te transforme, que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, cet atelier-là, c'est vraiment des outils que je donne et un accompagnement qui fait que à vie, la personne va comprendre comment elle fonctionne et qu'elle va pouvoir utiliser ces outils-là dans un paquet d'autres aspects de sa vie et continuer à avancer à évoluer en permanence. Donc, j'aimerais avoir tes commentaires sur cet épisode-là. J'aimerais avoir tes commentaires sur ce que tu en penses. Donc, tu peux aller sur mon groupe Facebook Hypnoconscience. Le lien va être en description. C'est un lien où je donne des petits surplus des fois et où les gens me posent des questions. Tu peux aussi me dire, ben écoute, Pascal, tel sujet, ça m'intéresserait. Pourrais-tu en parler? Et il y a de fortes chances que je fasse un épisode là-dessus. La dépendance affective, c'est pas une fatalité. Reste pas dans ça, parce que c'est ta vie qui va être gâchée au final, et tu n'avanceras pas et tu vas toujours souffrir. Et peu importe le passé, peu importe ce que tu as vécu, on est responsable au présent de nos émotions et de notre réalité. Donc, je t'invite à t'abonner aussi à ce podcast-là. Je t'invite encore une fois à partager aux femmes autour de toi qui pourraient avoir besoin d'entendre ce que j'ai dit, qui ont besoin d'aide. Il y en a énormément. Donc, vraiment, partage, s'il te plaît, cet épisode-là autour de toi, sur tes réseaux sociaux. Parle-en en privé à tes amis, si ça peut, ou si tu penses que ça peut leur apporter un petit plus dans leur vie, une petite réflexion. Je te remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.